d'attirer des personnes dans des lieux fermés un jour printanier comme aujourd'hui. Mais donc, je vous remercie de votre présence. Alors, je fais comme d'habitude un petit sondage à main levée. Quels sont ceux qui ne sont pas encore adhérents à l'UTB, qui sont présents dans la salle? Donc, je vais compter. Et maintenez les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, tous les ans, donc, nous faisons cette présentation du programme qu'on vous propose pour l'année prochaine. Et la raison en est que nous ouvrons les inscriptions pour les anciens adhérents, j'insiste beaucoup là-dessus, à partir du début juin. Vous devez avoir reçu le bulletin d'information qui vous annonce ça, puisque on commence par engranger les adhésions des anciens adhérents. Alors, si les nouveaux adhérents veulent quand même venir au mois de juin, on ne les mettra pas à la porte, on les prendra bien sûr, mais en principe c'est réservé aux anciens adhérents. Donc, je vais faire un nouveau petit sondage. Comment, pour les 6 personnes qui ne nous connaissent pas encore, comment avez-vous connu l'UTB? Donc déjà par Internet. Personne. Par le bouche à oreille. Internet, oui. Le bouche à oreille. Ou des personnes qui sont déjà à l'UTB. Voilà. Bon, ok. Très bien. C'est toujours intéressant pour comprendre par quel canal les gens nous connaissent. Puisque malheureusement, nous avons cette année, ça va être notre 39e année, il y a des gens qui sont nés à Chalon qui n'ont jamais entendu parler de nous. Voilà, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Bien, on y va. Alors, un petit résumé de la saison qui vient de se passer, qui a été encore perturbée pour ceux qui étaient là, ben, le savent très bien, à cause du confinement d'hiver, hein, et la contrainte du pass sanitaire. Et là, quand cette contrainte est apparue, on a un peu paniqué, et en fait, on a trouvé une solution astucieuse pour éviter des engorgements à l'entrée de la salle, c'est-à-dire de coupler l'existence du pass sanitaire, vérifier une seule fois à la carte d'adhérent. Donc, si on passait la carte d'adhérent, ça veut dire que on avait le pass sanitaire était valide. Donc, ça a permis de fluidifier, si vous voulez, la présence aux conférences. Nous avons maintenu les masques. Au début, on disait qu'on pouvait se passer des masques. L'expérience épidémiologique a montré que c'était pas vrai et que même des personnes vaccinés, pouvaient attraper la maladie. Alors, on a globalement assuré le programme. Il n'y a eu que quelques conférences annulées, souvent parce que le conférencier lui-même avait attrapé le Covid. La conséquence de cette chose-là, c'est que comme on avait baissé la cotisation pour essayer d'attirer des nouveaux adhérents, eh bien, les dépenses sont restées les mêmes qu'une année normale et les recettes ont baissé. Donc la situation financière, elle est dégradée. C'est comme ça. Donc on va. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement donc du programme de conférences. Je rappelle qu'à l'UTB, on ne fait pas que des conférences. On a beaucoup d'activités qu'on appelle globalement activités complémentaires, des ateliers, des groupes, etc., etc., qui fait l'objet d'une présentation spécifique au mois de septembre, et avec tous les animateurs de tous ces groupes qui viennent expliquer tout ce que l'on fait et comment ça fonctionne. Voilà, alors je me concentre essentiellement sur les conférences. Alors, comme depuis quelques années, on essaye de faire émerger des thèmes qui sont globaux, et ça veut dire que plusieurs conférenciers différents vont parler de chacun de ces thèmes. Donc on met toujours, tous les ans, l'histoire de l'art. On a toujours un quota à peu près de 20%, 20-25% de nos conférences qui tournent autour de l'histoire de l'art. Histoire de l'art au sens global du terme, c'est-à-dire c'est pas uniquement la peinture ou la sculpture, bien sûr c'est le cinéma, c'est le théâtre, c'est le, divers aspects de la BD ou tout ce qu'on peut imaginer. Et le premier grand thème original de l'année qui vient, c'est tout ce qui tourne bien sûr autour de Molière et du grand siècle. Pourquoi ? Bien, vous savez tous que cette année, c'est un anniversaire Molière, et donc la vie et l'œuvre de Molière sera bien sûr déclinée au cours de cette saison. Évidemment, une fois qu'on a parlé de Molière, on parle de Louis XIV et la vie sous Louis XIV en général avec beaucoup d'aspects, c'est-à-dire on a éliminé tout l'aspect géopolitique et guerrier de Louis XIV et on va parler plutôt du mode de vie aussi bien de la noblesse que des paysans. On continue l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a eu depuis 2019, même avec le Covid, donc toutes les étapes de la montée en puissance du régime nazi. Et donc 1943, vous savez tous que c'est le retournement où les Alliés reprennent le pas sur l'Axe, et donc entre autres les nazis. On a choisi un thème sur les provinces unies. Alors, pourquoi on a choisi ça ? C'est Louis XIV qui nous y a fait penser. Il faut savoir que le siècle de Louis XIV, la grande puissance qui émerge, on dit toujours c'est la Grande-Bretagne, mais au premier degré, ce sont les provinces unies, pour des tas de raisons donc, qui vous seront expliquées par des conférenciers. Donc la prospérité économique des provinces unies émergent vraiment à partir de 1600, on va dire. Et en particulier, ils sont très près dans le commerce des produits exotiques, et on aura des conférences sur ces produits exotiques. Alors, les grandes évolutions géopolitiques des années à venir, vous savez que cette année, on a fait au pied levé une conférence sur la situation en Ukraine, et on a fait 235 personnes, la salle était pleine de monde et on a eu une excellente conférence d'un universitaire parisien de la Sorbonne qui nous a expliqué les raisons très profondes et très anciennes, historiques de la situation qu'on connaît aujourd'hui. Un grand thème sur l'histoire de la presse et du livre. Alors on va continuer, il y a monsieur Yann Sordet, qui est le directeur de la bibliothèque Mazarine, qui est venu juste au mois d'avril, qui nous a fait une bonne conférence sur l'histoire de l'imprimerie. On va continuer dans cette lignée-là, mais également, on aura tout un cycle sur l'histoire de la presse, c'est-à-dire la presse, mais pas telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est même depuis l'Antiquité, si vous voulez. Et les évolutions récentes des sciences du vivant, c'est le sujet à la mode, on va dire, dans les sciences et techniques, c'est la biologie, les biotechnologies. Donc, on passe en revue tous ces thèmes. Donc, l'histoire de l'art, je viens déjà de le dire. Donc, voilà des thématiques de l'histoire de l'art, architecture, peinture, art contemporain, musicologie, photographie. La photographie, on a invité un conférencier du musée Niépce, chose qu'on n'avait jamais faite jusqu'à présent. J'ai dit, c'est quand même dommage qu'on n'ait personne du musée Niépce qui nous ait jamais fait de conférence. Donc là, ça va être le cas. Alors, architecture, évidemment, on parle du grand siècle. Ben, c'est le siècle de l'émergence du baroque avec le Concile de Trente et la réforme tridentine. Donc c'est M. Curnier-Laroche. Je rappelle que M. Curnier-Laroche est le curé de Sensey. Mais c'est un érudit en histoire de l'art et il nous enchante toujours. Et c'est la première conférence de la saison, c'est toujours début octobre. Voilà. architecture, donc Cyril Brulé nous fait toujours son cycle sur l'architecture moderne, disons, d'avant les années 50. Donc on va encore parler de Le Corbusier, et également de Marcel Breuillère, voilà, des villas aujourd'hui, mais ça c'était révolutionnaire au moment où c'est sorti, si vous voulez. Alors là, c'est un grand scoop, Claudie Roget, que vous connaissez tous et toutes, qui fait d'habitude beaucoup de conférences sur la peinture, et là elle nous a dit: moi je suis tombé amoureux de Gustave Eiffel et je vais vous raconter tout ce que Gustave Eiffel a fait. Bon, ben d'accord, pourquoi pas. Alors, Gustave Eiffel, mais au-delà de Gustave Eiffel, disons tout le contexte dans lequel ça s'est fait, en particulier les expositions universelles qui ont eu un impact tout à fait considérable, puisque la fameuse tour a été faite à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Et puis, elle nous parlera, bien sûr, de tout ce qu'il a fait en dehors de ça. Avant de faire sa tourbe, il a fait beaucoup d'ouvrages d'art, beaucoup de ponts qui sont restés célèbres dans le monde entier. Et en particulier, il a fait, c'est pour ça que j'ai mis la statue de la liberté, toute l'ossature de la statue de la liberté, c'est Gustave Eiffel qui l'a faite. Hein. Et c'est Bartholdi, bien sûr, qui a fait la sculpture qui est plaquée et fixée dessus. Alors, là, on revient dans l'histoire de l'art, la peinture et les hyper classiques. Alors, notre ami Damien Capellazzi, qui a fait déjà beaucoup de peintres, on a fait toute la liste et on a découvert que Botticelli et Michel-Ange, qui sont quand même des hyper vedettes de la Renaissance, eh bien, ils les avaient jamais faites. Donc, ok. Il n'a pas le choix, donc il va les faire. Voilà. Donc lui, il a un catalogue absolument gigantesque, donc il suffit d'appuyer sur les boutons pour que ça fonctionne. Alors, Frédéric Cousin, qui d'habitude est plus centré sur la peinture du XXe siècle, là, il y a deux conférences sur des thématiques différentes, architecture et ruine imaginaire au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est un peu la continuité, si vous voulez, du siècle de Louis XIV, donc c'est ce qu'on appelle la poétique des ruines dans le jargon de l'histoire de l'art, mais la deuxième conférence sera le dadaïsme qui est, on va dire, le précurseur du surréalisme. Ensuite, alors, Mathieu Pinette, qui fait toujours quatre conférences, il en fera à nouveau quatre, et là, on le presse comme un citron, hein, et on a eu pas mal de... Il a beaucoup hésité sur les propositions qu'il voulait nous faire. Et il a pris un sujet, on va dire, inhabituel. On a été un peu perturbés quand il nous a proposé ça, mais on a dit pourquoi pas, on ne sera pas déçus. Et le thème, c'est de dire, c'est les petits formats, sans dire les miniatures, mais des tout petits formats, mais qui ont été révolutionnaires dans l'œuvre de chacun de ces peintres. Et donc, en particulier, est-ce que vous saviez qu'Édouard Manet avait peint une asperge de petits formats, mais on ne voit qu'une asperge. Hein. Alors, vous la devinez ici, si vous voulez. Et donc, Mathieu Pinette se sent capable de parler de l'asperge pendant une heure et demie. non, je pense qu'il expliquera les raisons pour lesquelles il a choisi ce thème, et bien sûr. Hein, évidemment, je blague. Hein. Alors, peinture, ben on va parler de Max Ernst. Alors, c'était programmé cette année, mais voilà une conférence qui a été décalée pour des tas de raisons liées aux événements. Et donc, Françoise Rassovlev, une de nos vice-présidentes, qui n'est pas là aujourd'hui, donc, nous parlera de Max Ernst. On revient sur Claudie Roget, et Claudie Roget va reprendre Non, mais ça va, c'est moi qui fais le... Claudie Roger va reprendre son thème des affiches anciennes. Il y a une dizaine d'années, c'est une de ses spécialités. Et sur les affiches anciennes, il y a eu toute une période d'or de l'affiche entre le milieu du 19e et la, on va dire, l'avant-deuxième guerre mondiale. Et après, évidemment, la photographie a un peu tué l'affiche, on va dire, artistique. Hein. Vous voyez le style de ces... Et donc, c'est toujours très intéressant de l'écouter, parce que là, elle est vraiment dans son... son thème favori. Art contemporain. Donc, on a beaucoup parlé d'art contemporain, soit anglo-saxon, soit français. Et là, on va parler de l'art contemporain allemand. Et en Grande-Bretagne. Allemand, c'est Baslitz. Ce tableau, peut-être certains le connaissent, c'est un oiseau qui meurt et qui tombe. C'est tout à fait... c'est figuratif, on ne voit pas très bien ce que c'est, mais c'est un tableau gigantesque, et un oiseau, les ailes déplumées, qui a dû se faire tirer au pigeon. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, donc on va nous l'expliquer, bien sûr. Donc Roger Couraud et Damien Hirst, voilà, art contemporain en Grande-Bretagne. Bon, c'est une des vedettes actuelles, c'est des peintres qui vendent leurs œuvres à quelques millions, dizaines de millions de dollars, ou de livres sterling, bien sûr. Alors voilà le thème que NXP devait faire cette année, et malheureusement, elle a eu des problèmes de santé, donc elle reviendra. L'image numérique et le web art, parce qu'il y a tout un domaine avec les outils numériques, si vous voulez, qui permettent de faire des choses absolument extraordinaires et d'une variété infinie. On pourrait faire 10 conférences sur le web art, parce que ce n'est pas monolithique, ça a explosé dans tous les sens, et il y a des choses extrêmement originales, et je ne doute pas qu'elle nous les montrera. Ah, voilà notre conférencier du musée NEPS. Donc c'est Sylvain Besson, c'est le numéro 2 du musée, hein. C'est le directeur des collections, et il nous a proposé ce thème-là, « Histoire de la photo de mode ». La photo de mode, elle n'est apparue vraiment qu'au XXe siècle, parce qu'avant, on faisait plutôt des affiches, on va dire. Hein. Et voilà, il y a eu son heure de gloire dans les années 50 en particulier. Ça a été tout à fait florissant. Alors, il va illustrer sa conférence avec des extraits des collections du musée NIEPS. Hein. Donc, ce n'est pas seulement une conférence académique, c'est un extrait choisi des ressources du musée NIEPS. Alors, on a eu Léonard Cohen avec M. Jean-Jacques Astruc. Je pense que ceux qui ont assisté ont dégusté sa conférence, qui est très originale, parce que c'est un artiste dans tous les sens du terme, même au point de vue conférencier. Il avait été déçu quand on avait choisi Léonard Cohen, parce qu'il nous avait proposé en pole position Bob Dylan. Et donc, alors là, cette année, ça y est, on va faire Bob Dylan. Alors là, il était aux anges. Et donc, on va parler de Bob Dylan. Alors, je pense qu'on aura des extraits de... Alors, il traduira, parce que moi qui comprends l'anglais, je ne comprends absolument rien de ce que Bob Dylan chante quand il chante. Mais je me pose souvent la question de savoir si les Américains qui l'écoutent comprennent ce qu'il dit. Mais ça, c'est une autre histoire. Évidemment, on parlera de John Baez, qui a été sa compagne à une certaine époque. Le grand siècle, on revient au grand siècle, eh bien, c'est la naissance de l'opéra en Italie et également en France, puisque vous savez qu'il y a un personnage célèbre qui venait d'Italie, qui s'appelle Lully, et qui a contribué à l'émergence de ce genre. Donc c'est notre conférencière, Joëlle Faringue, de musicologie. Et là, voilà, alors le fameux théorbe, j'espère celui-là, on va le voir, puisque alors c'est un grand luth, on va dire, hein, le théorbe, et qui était très utilisé, disons, au XVIIe siècle. Le problème, c'est un instrument, pourquoi il est abandonné maintenant comme le luth, un petit peu, c'est un instrument qui n'est pas sonore. En plus, il est très encombrant, comme vous voyez sur la photo. Donc, il y a 12 ou 14 cordes, je me souviens, c'est assez complexe à jouer. Hein. Et donc, M. Fevrat, qui devait nous faire la conférence, eh bien, la veille, a attrapé le Covid. Donc, évidemment, il n'est pas venu, donc on reprogramme cette conférence la saison prochaine. Alors, notre ami Hubert Humeau. Hubert Humeau, je rappelle, il était vacataire professeur là, au conservatoire de Châlons, mais en fait, il était vacataire tous les mercredis de l'année, et là, il a pris sa retraite, chose qu'on a découverte, mais il accepte de revenir, bien sûr, et il nous a fait des conférences sur les techniques de la voix, d'une façon générale, hein, et avec un style, parce qu'en fait, lui, c'est un chanteur lyrique. Alors, quand il se met à chanter, on est obligé de couper le micro, parce que la puissance de sa voix est telle qu'il n'y a aucun problème pour bien distinguer. Et il fait chanter la foule, donc on se régale toujours avec lui. Alors, en musique, eh bien, traditionnellement, Stéphane Vernet... Alors, son titre a un petit peu changé. Il est toujours responsable de la programmation, mais maintenant, il est directeur adjoint du conservatoire. Et donc, on a mis une heure, une œuvre et conférence illustrée, parce qu'à l'instant où on a fait le programme, ben, il n'était pas capable de nous donner d'un titre ni pour l'une ni pour l'autre. Donc, je rappelle le principe. Une heure, une œuvre, c'est... une formation musicale qui vient au conservatoire, en général le samedi, sinon le dimanche, soit un quartet, soit un orchestre un petit peu plus important, soit un soliste, et qui propose normalement un concert. Et le vendredi soir, avant le concert effectif, il y a une conférence-concert, c'est-à-dire la formation musicale joue des extraits, et Stéphane Vernet les commente en disant ben, vous voyez tel mouvement, il y a ceci, il y a cela, donc c'est très bien et ça marche très bien, hein. Et donc ça fait de la pub aussi pour le spectacle qui aura lieu le lendemain. Et conférence illustrée, ça c'est une conférence de musique traditionnelle, on va dire, il vient parler soit ici soit à l'IUT et on passe des extraits musicaux commenté comme fait Joël Farinck. Voilà l'histoire de l'art dans sa globalité. Alors maintenant, l'histoire, la vraie. Je vous fais grâce du décompte des conférences. Et on va passer en revue les thèmes de cette nouvelle saison. Premier thème, donc on a invité M. Gaetano Minacori, italiano, mais il parle très bien français, hein, je vous rassure tout de suite, mais qui va nous parler. Alors c'est un habitué de l'UTB de Monceau, et qui vient à Monceau depuis plus de 20 ans, et donc il nous a fait des offres de service, et on a choisi ce thème-là dans sa liste. La Sicile normande. Vous savez que les Normands ont conquis la Sicile au XIIIe siècle, et en particulier, ils ont laissé quelques traces qui ressemblent beaucoup. Alors là, vous avez le cœur de la cathédrale de Montréal, et donc là, c'est absolument magnifique. Hein, Et donc, on aura les commentaires, mais il y a beaucoup d'autres choses à Palerme dont il va nous parler. Simplement sur ce thème de la Sicile normande, alors là, une heure et demie, ça ne suffit pas. Donc, on pourrait en dire beaucoup plus. Donc, on va le découvrir, si vous voulez. L'intérêt, c'est d'avoir un nouveau conférencier. Je rappelle, je ne l'ai pas dit au départ, c'est qu'on essaye tous les ans de renouveler à peu près 20% de nos conférenciers pour essayer de nouvelles têtes et de nouvelles personnes pour diversifier nos sources, bien sûr. Alors, Madame Roux, elle est toujours là, elle est toujours fidèle au poste, et elle nous a proposé plusieurs sujets complètement différents les uns des autres. Alors, je rappelle que Madame Roux, elle était enseignante, elle a fini sa carrière à Mathias, hein, c'est ça, hein. Et elle me dit, mon critère de choix pour trouver des sujets, c'est tous les sujets que je n'ai jamais enseignés et qui m'intéressent et que je voudrais travailler. Et donc, on se régale parce que pour elle, la préparation d'une conférence, c'est l'occasion de s'enrichir personnellement et accessoirement de nous enrichir aussi. Et donc, le phénomène des sorcières, c'est un truc qui a explosé au XVIIe siècle. Et pour des raisons sociologiques compliquées. Donc, elle va nous expliquer tout ça. Et c'est bizarre, cette histoire de sorcière. On pense souvent que c'est lié uniquement au Moyen-Âge. C'est vrai que c'est la fin du Moyen-Âge où ça a commencé à monter en puissance, mais ça a explosé sous le grand siècle, pendant le grand siècle. Elle nous en a un petit peu parlé indirectement dans une conférence qu'elle a faite cette année sur l'histoire des complots, et en particulier l'affaire des poisons. Et dans l'affaire des poisons, des sorcières, il y en a à tous les coins de rue. Voilà. Alors, ensuite, notre ami Philippe Clemenceau, il y tient beaucoup. C'est pas Clemenceau, c'est Clemenceau, donc, qui vient une fois par an et qui nous fait souvent des conférences sur les thématiques à caractère religieux. Et donc, dans le grand siècle, qu'est-ce qui est apparu ? Le jansénisme. Qu'est-ce que c'est que le jansénisme ? Pour le savoir, vous viendrez l'écouter, bien sûr. Et le jansénisme, on va dire, c'est une secte ultra-rigoriste catholique. Hein, voilà. Comme toutes les religions, vous avez la religion centrale et puis vous avez toujours les intégristes de chaque secte. Vous avez soit des protestants ou des sectes divergentes, si vous voulez, soit vous restez dans le dogme central et appliqué d'une façon extrêmement sévère et rigoureuse. Et donc, vous voyez les dames de Notre-Dame-des-Champs, hein, et l'uniforme des jansénistes était bien connu. Et Louis XIV n'a eu de cesse, parce qu'on dit toujours qu'il ne pensait qu'à détruire, bien sûr, les protestants, mais il a aussi détruit les jansénistes, qui avaient en plus l'inconvénient d'être juste à côté de Versailles, et cette verrue qui le dérangeait, une fois qu'il a réussi à tuer cette secte, on va dire, eh bien, il a fait raser Notre-Dame-des-Champs, pour l'essentiel. Il n'en reste pratiquement plus rien. Je rappelle que Blaise Pascal était dans cette mouvance, hein, et Philippe de Champaigne également, et Corneille. On va en parler, hein, voilà. Le grand siècle, la société du spectacle, le thème de la vie nobiliaire et de la vie de cour, c'est un spectacle. Donc là, vous voyez un magnifique tableau qui est bien sûr du 19e siècle, au style, c'est pas un tableau du 17e siècle, mais tout était dans le spectacle. Et évidemment, quand on parle de Louis XIV, eh bien, son parrain, on va dire, au sens intellectuel du terme, c'était son vrai père, on va dire, au sens affectif du terme, hein, le cardinal Mazarin. Bien sûr, on a fait venir la bibliothèque Mazarine cette année, là, au mois d'avril. Eh bien, Mazarin, c'était le père des arts, on va dire, dans cette période. On ne parlera pas que de la peinture de Mazarin, enfin des tableaux que possédait Mazarin, bien sûr. Non. Et voilà la bibliothèque de Mazarine, donc, qu'on nous fera visiter virtuellement Mais une chose qu'on pourrait faire sûrement, c'est de faire une sortie pour aller à Paris visiter cette bibliothèque Mazarine, que personnellement, je n'ai jamais fréquentée. Alors, Alena Vasek, qui est plutôt une médiéviste, hein, qui nous a fait beaucoup de choses sur les ducs de Bourgogne, on a dit 17e siècle plus Alena Vasek. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la région ? Évidemment, vous croisez les deux critères et vous avez trouvé tout de suite la solution, Bussy-Rabutin. Et donc Bussy-Rabutin, on va faire une petite révision parce que ça fait quand même quelques, peut-être une dizaine d'années qu'on n'en a pas parlé. Je rappelle que l'UTB a édité et des lettres, un recueil de lettres de Bussy-Rabutin il y a plus de 15 ans. Qui se vend pas mal au château de Bussy-Rabutin, donc on aura la conférence et on aura bien sûr la visite du château qui est magnifique si vous ne le connaissez pas avec Alena Vasek. Et donc on a parlé de la noblesse au grand siècle, et bien on va parler aussi des paysans, parce que ceux-là on n'en parle jamais, hein, mais c'est eux qui font tourner la boutique et c'est eux qui sont pressurés par les impôts et les famines. Donc, on va avoir. Donc, il y a deux conférences. Elles devaient être faites par notre conférencier François Vion-Delphin. Vous avez vu le message que je vous ai tous envoyé, qui était le président de l'équivalent de l'UTB à Montbéliard, qui est décédé le mois dernier d'un cancer rapide à 72 ans. Et donc, ça nous fait. C'était un excellent conférencier. Ben, ça nous fait. En dehors de la perte de pour sa famille, ça nous fait une perte. C'était vraiment devenu un ami. Et donc, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, Michel Lécuyer vient ici depuis quelques années. Alors, c'est un professeur d'histoire qui habite à Mont-Saint-Vincent. Et il nous a fait beaucoup de conférences sur le. D'ailleurs, il va en faire également sur ce thème-là cette année. Sur l'histoire des juifs, l'antisémitisme et tout ce qui tourne autour. Alors, les provinces unies que je vous avais annoncées, hein, donc, en deux conférences par Geneviève Guérin, donc pourquoi ces fameuses provinces unies, je rappelle qu'ils sont nées du fait de la guerre contre les Espagnols, hein, donc les provinces unies, c'est la guerre. Ce qui était la libération de la domination espagnole, des Habsbourg d'Espagne. Et après 70 ans de guerre continue, eh bien, ils ont fini par obtenir leur indépendance. Mais ils l'ont assise aussi sur une prospérité économique qui leur a permis de financer leur guerre et leur puissance. Voilà. Je rappelle que Richelieu disait que il ne comprenait pas qu'un pays où il y avait 10 fois moins d'habitants que la France, le PNB, on ne disait pas ça à l'époque, était deux fois supérieur, par tête, était deux fois supérieur à celui de la France. Et il n'y avait pas de famine dans les provinces unies. Donc, il ne comprenait pas pourquoi. Mais on n'a pas eu le temps de lui expliquer. Voilà. Geneviève Guérin, une fois avoir fait ça, elle nous a dit ben « Tiens, j'ai envie de vous faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. » Effectivement, à l'UTB, on n'a jamais parlé de ça. Les guerres d'Indochine. Pourquoi donc il y a eu des guerres en Indochine ? Enfin, les guerres du XXe siècle. Hein. Et bien sûr, elle va remonter aux sources de la présence des Français dans cette zone. Hein. Donc on va découvrir un petit peu tout ça, et je crois qu'on a un peu oublié pourquoi les Français, puis après c'était les Américains, mais pourquoi on a un peu oublié toute cette histoire, et donc c'est pas inutile de réviser un petit peu cette période et cette période du XXe siècle. Ah. Alors, nous avons découvert une excellente conférencière qui est qu'on a connue uniquement par visioconférence avec le Covid et qui est à Lorient et qui nous a fait des conférences extraordinaires sur les commerces de la Compagnie des Indes. Évidemment, dans les bateaux, ben, il y avait de tout. Alors, on a choisi deux thèmes. Un, c'est la porcelaine, évidemment. Vous savez que la porcelaine, on a mis du temps à savoir la faire en Europe. Hein. Et puis, deuxièmement, le café, la graine du diable, hein, qui a eu un succès absolument extraordinaire en Europe grâce au commerce, à la mondialisation de l'époque, on va dire. Voilà. Et donc, ces conférences se feront encore en visioconférence parce que ben, l'Orient, Chalon, c'est loin et ça coûte. Et donc, on a réussi à faire des conférences en direct en ligne et on les projette en même temps dans la salle. C'est-à-dire, il y a à peu près la moitié des gens qui regardent la conférence chez eux sur leur ordinateur et l'autre moitié qui vient ici en présentiel pour écouter la conférencière. On voit sa tête et puis sa présentation à côté. Voilà. Donc, Géraldine Guérin, c'est une Madame Guérin, mais ce n'est pas Geneviève, c'est Géraldine. Alors, si un jour on va faire un voyage en Bretagne, nous sommes invités au musée de la Compagnie des Indes, qui est à Lorient. Parce que pourquoi Lorient s'appelle Lorient ? Ben, vous avez deviné, parce qu'on allait en Orient, tout simplement. Parce qu'avant que Lorient n'existe, ben, il n'y avait rien à Lorient. Donc, on a créé une ville, et on l'a appelée un peu naturellement Lorient. Histoire contemporaine. Alors, évidemment, avec les événements qui se sont précipités ces derniers mois, on reparle beaucoup de l'histoire de Taïwan. Ça, c'est une ancienne inusable dans les conflits géopolitiques dans le sud-est asiatique. Et donc, on a demandé à Pierre Alliot, vous savez qu'il y a un tropisme très fort pour les pays d'Extrême-Orient, puisqu'il nous a beaucoup parlé du Japon et de la Corée, mais pas encore de Taïwan, donc c'est ce qu'il va faire, donc, et en remontant aux origines de Taïwan, bien sûr. Et puis expliquer pourquoi il y a ces tensions, ben, tout simplement à cause des événements de la fin de la guerre civile chinoise et l'exil de Chiang Kai-shek à Taïwan. Robert Kasprick nous a fait cette année le pétainisme, le régime de Pétain. Il a dit « je suis très gêné » parce qu'on a compris qu'il n'était pas très pétainiste, mais bon, c'est un historien, donc il a essayé de nous faire quelque chose. Il dit « mais je me dédouane de ma conférence sur le régime de Pétain, je vais vous faire l'histoire de la résistance, évidemment. » Donc c'est la partie adverse. Voilà. Qui est, comme vous le savez, hyper compliqué. Donc il va devoir faire un effort absolument gigantesque pour comprendre tout ce qui s'est passé derrière tout ça. Et les traces de ces histoires compliquées, ben, malheureusement, sont toujours présentes dans l'arrière-plan des combats politiques d'aujourd'hui. Alors là, M. Kersaudi, le grand spécialiste de Churchill et accessoirement de De Gaulle, « De Gaulle et Pétain, une tragédie shakespearienne ». Il n'y a rien de plus à dire. Hein. Pourquoi ces deux hommes se sont combattus en permanence ? Ils ne sont pas tellement combattus en permanence. Je rappelle quand même pour la petite histoire, sans vous faire la conférence, que De Gaulle, quand sa première affectation, son colonel s'appelait Pétain. Donc c'est des gens qui se sont vus et croisés pendant toute leur vie. Et donc on vous expliquera toutes les interfaces, toutes les intrications de ces deux personnages qui, au-delà de leurs idées politiques, c'était le choc de deux personnalités complètement différentes. Alors là, on revient dans le thème classique de M. Lécuyer, qui est pourquoi les nazis ont voulu faire un projet d'élimination systématique et industrielle des Juifs. Là aussi, contrairement à une idée largement répandue, c'est très, très compliqué. Monsieur Gersony nous l'a dit lors d'une de ses premières conférences, avant que Mein Kampf ait été écrit par Hitler, aucune mention d'antisémitisme dans les écrits d'Hitler n'apparaissait. C'est l'antisémitisme d'Hitler a été postérieur à Mein Kampf. Et voilà, deuxième sujet qui trottait dans la tête de Monique Roux, c'est l'Afrique du Sud, l'histoire de l'Afrique du Sud. Alors là, il y a aussi beaucoup à dire, c'est pour ça qu'elle a demandé deux conférences. Hein. Et donc vous voyez ici, bien sûr, Mandela et De Klerk qui obtiennent le prix Nobel pour avoir arrêté l'apartheid. Mais il s'est passé beaucoup de choses avant. Et l'apartheid, il n'est pas sorti d'une pochette surprise. C'est l'histoire de justement des provinces unies déjà et des Anglais, la compétition entre ces puissances coloniales a créé indirectement ce phénomène. Le grand siècle, on va revenir au grand siècle, l'histoire de l'hôpital. Donc, je rappelle que Françoise Rosselev est présidente de l'association Abigail Mathieu, donc qui s'occupe de la gestion du patrimoine ancien de l'hôpital. Alors pour le moment, ça consiste surtout à garder en état ce patrimoine, avec l'aide de la ville, bien sûr. Et si un jour il y a des budgets qui permettent de faire des projets de rénovation de toute l'île Saint-Laurent, c'est bien sûr dans la tête du maire, vous le savez tous, hein, eh bien, elle reprendra, cette association prendra un rôle encore plus important. Alors, on aime bien toujours mettre un petit peu de local dans notre programme de conférence. Alors, on a mis Madame Boussicot. Alors, Madame Boussicot, à part de s'être mariée avec Monsieur Boussicot, je rappelle Monsieur Boussicot, c'est celui qui a inventé le bon marché à Paris, hein, donc c'est l'inventeur du système des grands magasins, et donc il a fait fortune, et incidemment, Madame Boussicot avec, hein, née à Verjus, comme vous le savez tous, hein. Et après, elle a fait pleuvoir, c'est classique, comme philanthrope et comme mécène, l'argent sur, entre autres, sa ville, et vous connaissez la maternité Boussicot. Mais elle a fait aussi beaucoup de choses, l'histoire est très célèbre, c'est les relations de Madame Boussicot avec Pasteur, Louis Pasteur, où elle lui a donné beaucoup d'argent pour développer, en particulier, son institut. Donc, on nous parlera de toute cette histoire. Voilà. Alors, j'aime bien faire des conférences, comme vous le savez. Alors, je vais vous faire une conférence sur l'émergence des académies des sciences. C'est encore le grand siècle. Quand apparaissent les académies des sciences, c'est toujours au XVIIe siècle, aussi bien en France qu'en Angleterre qu'en Italie. Et donc, je vous expliquerai tout ça. J'aime bien les thèmes autour de l'histoire des sciences, si vous voulez. Et l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui est complètement différente de l'idée qu'on s'en faisait à l'époque. Donc, c'est ce que j'essaierai de vous expliquer lors de cette conférence. Une conférence, alors, est-ce que vous connaissez cette dame, Madame d'Arconville ? Alors, vous allez me dire, non. Alors, je vais vous répondre quand j'ai vu ce nom pour la première fois. Mais moi non plus, je ne la connais pas. Mais c'est une femme scientifique du XVIIIe siècle. Là, il y a une erreur, c'est XVIIIe siècle. Alors, Ahmed Djebbar, un de nos fidèles de fidèles. Donc, je rappelle qu'Ahmed Djebbar a été dans sa carrière ministre de l'Éducation nationale en Algérie, hein, et c'est un conférencier absolument extraordinaire. Alors, c'est un mathématicien de formation, et il est spécialiste de l'histoire des mathématiques dans l'Espagne médiévale. Et là, ben voilà un thème en or pour Ahmed Djebbar. Donc c'est Averroès, donc un grand érudit en Espagne, et il va nous dire un petit peu l'influence de cet érudit sur l'évolution, en particulier sur l'effet de passage de la science arabe qui venait de la science antique, hein, où tout avait été traduit en arabe, et après tous les arabes, les textes arabes ont été repris dans les langues latines modernes, et donc c'est comme ça qu'on a pu amorcer la pompe du développement des sciences au XVIIe siècle. Un peu de technologie. Alors là, on a découvert une personne, M. Éric Boudot, qui possède toute une collection de petites maquettes qui permettent de comprendre comment fonctionne, mais des petites maquettes qu'il va nous apporter et qui permettent de comprendre comment fonctionnent les métiers à tisser. Alors, vous connaissez tout comment ça marche, mais enfin, ce n'est pas inutile de le revoir de près. Hein. Voilà quelques exemples. Donc, l'histoire du tissage. Alors, on a fait le café et on a fait la porcelaine. Évidemment, il fallait faire le triptyque. On va faire le chocolat. Le chocolat, alors... donc, Madame Jurzac nous a proposé... Alors, ça, c'est une... Madame Jurzac, elle est adhérente à l'UTB. Donc, ça fait partie du cycle de ce qu'on appelle les lundis de l'UTB, c'est-à-dire on demande... Si quelques personnes adhèrent... Oui ? Elle est là, Madame Jurzac. Bon, eh bien, il y a une erreur. C'est une erreur, ben, autant pour nous, mais c'est pas grave. Hein. Redites-moi ce que vous avez proposé. Ah, le tabac. Ben, on va. Ce sera pas le chocolat, ce sera le tabac. Bon, voilà. On garde le chocolat pour la bonne bouche. Voilà. Bien. Alors, je vous ai parlé de Molière au départ. Eh bien, voilà Molière. Alors, faut bien faire attention au titre. Molière et la Comédie française. Je rappelle quand même que la Comédie française a été créée 7 ans après la mort de Molière. Donc, Molière n'a pas créé la Comédie française et il n'a jamais joué à la Comédie française. Hein. Donc... Le fait que Molière ait eu une importance significative a fait que les parrains, si vous voulez, des deux troupes ont fini par se rejoindre et faire fusionner les deux troupes qui existaient et de fonder la Comédie française. Alors, on a déjà eu une conférence sur la Comédie française jusqu'à la période actuelle par Gaël Abou. Mais donc, pour parler de 4 siècles de théâtre, bon, c'était, elle est passée un peu vite sur le début de l'histoire. Donc là, elle va se concentrer vraiment sur la période du début de la Comédie française. Et on va parler également de Corneille. Donc, des mauvaises langues disent que c'est lui qui a écrit les comédies de Molière. On posera la question à la suite puisque vous savez que Molière, on n'a aucun autographe de Molière. Toutes ces pièces sont des textes imprimés, mais on n'a pas d'autographe de Molière. Donc on n'a pas la preuve formelle que les pièces de Molière aient été écrites par Molière. Et les mauvaises langues disent que ça ressemble au style de Corneille. Bon, passons, on verra bien. Alors, pour faire le pendant, on va parler... évidemment, de Blaise Pascal. Blaise Pascal, à nouveau, c'est le XVIIe siècle. Alors, Blaise Pascal, il y a beaucoup de choses à dire. On ne fera pas la biographie, je l'ai déjà faite, je vous ai déjà infligé ça il y a 10 années. J'ai surtout insisté sur la partie, évidemment, scientifique, mais la composante religieuse et la composante littéraire est très importante. Certains disent que Pascal, c'est l'inventeur de la langue française telle qu'on la parle aujourd'hui, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, faire des phrases simples et claires, alors que le style de l'époque pesait des tonnes. Et donc lui, il savait parler clairement et d'une façon directe et simple. Alors, on va parler bien sûr du personnage de Molière, mais il faut parler également de ses personnages. Et on va faire un balayage des comédies de Molière, qui ont eu quelques soucis avec le roi, bien sûr, vous le savez tous. On va parler de Jean de La Fontaine, dont vous connaissez tous les fables, et alors, dont le protecteur était Fouquet, je rappelle. Et quand Fouquet est passé à la trappe, il a été un peu en difficulté. Voilà. Et puis, on parlera, alors là, ce n'est pas lié au XVIIe siècle, c'est un thème qui a été abandonné avec tous les reports de conférences de ces dernières années. Laurentine Caetano, elle est vraiment très calée sur les figures de style, et donc on va réviser tout ça, la rhétorique et la littérature. L'aspect théorique et la déclinaison dans le langage quotidien. Et puis, alors, un revenant, Daniel Clostre. Daniel Clostre, ça fait des années qu'il ne vient plus, mais il est basé maintenant à Châlons. Voilà, et donc on le voit régulièrement, puisque, comme vous le savez, certains le savent, il est président de la Société des Amis du Musée de Nantes. Et il nous a, comme on le voit grâce à Denon en particulier, il nous a proposé de parler comment lire à la recherche du temps perdu. Donc vous voyez, il ne va pas vous parler de la recherche du temps perdu, il va vous donner une boîte à outils qui va vous permettre de ne pas vous endormir, de vous endormir sur son bouquin. Pardon. Vous savez tous que c'est quand même assez difficile à lire. Alors, vous avez les pros Proust, qui sont des fanatiques et des aficionados, et d'autres qui détestent ça. Donc on va essayer de faire la part des choses. Dans le domaine littéraire, Dostoïevski. Donc je rappelle Philippe Comte, c'est lui qui nous a fait la conférence sur l'Ukraine. Donc sa spécialité, c'est quand même la littérature russe. Il parle bien sûr russe. Et donc il va essayer, à travers finalement son œuvre, de décoder l'âme slave dont il nous a beaucoup parlé dans sa conférence sur l'Ukraine, qui peut expliquer en partie les différences de sensibilité et d'appréciation par rapport à nos sensibilités occidentales. Évidemment, dans les personnages de Molière, on ne peut pas éviter les précieuses. Et quand j'ai cherché des photos, j'avais que l'embarras du choix. Les précieuses qui ont été moquées par Molière, il faut bien dire crûment les choses. Mais on va voir la double face du problème. Donc c'est Catherine Weissmann, qui est toujours très brillante sur ces sujets-là, qui nous fera cela. Et à nouveau, on revient, Françoise et Catherine aiment bien faire des conférences en duo. Donc André Breton, c'est le père du surréalisme, on va dire, le sujet est hyper vaste, et donc c'est plutôt Françoise Rochebleu, parce que elle a fait beaucoup d'études sur le surréalisme quand elle était jeune, avant d'être enseignante. Et donc, elle va utiliser ses sources pour nous faire cet exposé. Alors, Madame Husson-Robert, qui nous a fait beaucoup de sujets un petit peu exotiques, on a dit la place des femmes dans la religion cette année, elle nous a fait. Donc, elle nous a proposé l'engagement au féminin. Alors, je pense qu'elle passera en revue un petit peu toutes les femmes qui ont eu des rôles très importants, comme J'en pense à une en particulier, c'est Gisèle Halimi. Je pense qu'elle l'évoquera dans sa conférence. Alors, un sujet inhabituel, mais on aime bien pimenter un petit peu notre programme par des choses un petit peu exotiques. Le pain qui fait du bien. Donc, par un vrai boulanger, c'est sa photo, qui est à Paris. Donc, vous savez, aujourd'hui, les boulangers se diversifient beaucoup dans la façon de proposer des pains variés. Hein. Et donc, il va nous exposer son métier, finalement, tel qu'on peut le comprendre aujourd'hui. Alors, on va parler du virtuel. On a parlé du web art. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du métaverse ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Alors, métaverse, ça veut dire quoi ? Méta, ça veut dire au-delà, si ma mémoire est bonne. Et verse, c'est la fin d'univers. En anglais, on dit métavers. Hein, donc, c'est au-delà de l'univers. Donc, c'est l'univers virtuel, on va dire. L'idée, c'est de dire, eh bien, ça sort des jeux vidéo, si vous voulez, de faire des avatars des uns et des autres, et puis d'avoir une vie de ces avatars dans un monde virtuel. J'avoue que je suis assez dubitatif, et je pense que la plupart d'entre vous le sont aussi, mais tant qu'on ne nous explique pas, une politique qu'on a dans notre programmation, c'est de dire, toutes ces tendances un petit peu nouvelles, qui émergent et qu'à la limite on ne comprend pas, on demande à quelqu'un qui est censé les comprendre qu'il nous explique, hein, voilà, pour coller un petit peu à la réalité. C'est toujours intéressant d'avoir le passé, de parler de l'histoire, des choses comme ça, mais on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé d'Internet, on a parlé de beaucoup de choses comme ça pour coller un petit peu à l'actualité. On a parlé d'intelligence artificielle et tout, ça nous permet de capter un petit peu les dernières tendances. Histoire de la presse. Alors, je vous laisse lire un petit peu les thèmes en 4 conférences. La communication jusqu'à Théophraste Renaudot. Alors, Théophraste Renaudot, c'est celui qu'on considère comme l'inventeur de la presse. Donc c'est du XVIe siècle. Hein. Le fameux prix Renaudot dont on vous parle à la télé, c'est lui, c'est ce monsieur-là qui est en gravure ici. Voilà. Et donc la presse, la presse, c'est quoi ? C'est avoir un support écrit pour communiquer. Et donc ça existe depuis l'Antiquité. Donc on aura un premier thème là-dessus. La presse du canard jusqu'au Pulitzer. Pulitzer, je rappelle que c'est un grand prix américain. C'est un qui célèbre une fois par an un livre qui a eu beaucoup de succès et qui est bien écrit, si vous voulez. Et le canard, tout le monde connaît le canard, 1915, le canard enchaîné. Donc, c'est un tableau synoptique un petit peu de la variété de la presse. C'est-à-dire, aujourd'hui, la presse s'est diversifiée. Je ne parle pas d'Internet, hein, la presse écrite. Hein. Ça a explosé. Hein. Troisième thème, la presse entre censure et affaires. Donc ça c'est facile, hein. Enfin, facile. Le problème de la censure existe depuis que la presse existe. Et les affaires, tout le monde. Il y a toujours des affaires d'argent dans la presse. Et en particulier, je rappelle une anecdote parmi tant d'autres, les emprunts russes, il y avait des journalistes qui avaient été achetés par des Russes pour faire de la publicité, pour vendre les emprunts russes au public français, dans les grands journaux comme Le Figaro, les choses comme ça. Et ça s'est su après, hein, bien sûr. La galaxie McLuhan aux nouveaux médias, donc ça c'est la transition entre la presse écrite et tous les nouveaux médias, c'est-à-dire Internet, les écrans divers et variés, etc. etc. Donc, voilà un bloc homogène et très diversifié sur cette thématique de la presse. Alors, On va parler des cyberguerres. Alors là, j'ai mis André Genot parce qu'à l'instant T, je n'ai pas encore trouvé la personne qui va nous faire le... André Genot, c'est un général qui nous a fait un exposé sur la défense, le métier de soldat, avec Jean-Michel Gras. Il n'est pas là, Jean-Michel Gras? Il est là. Donc, j'ai mis André Genot, mais bon, on va trouver quelqu'un pour le faire. Lui, il ne veut pas le faire, hein, donc on va en trouver un autre. Voilà, c'est pas... Ah, c'est quoi les cyberguerres? Vous savez tout ce que c'est. C'est les attaques informatiques pour des raisons de... pour déstabiliser un ennemi. Et donc, aujourd'hui, on parle entre nous d'une façon sympathique. Vous savez, par exemple, que le Chalon et le Grand Chalon ont été victimes d'une attaque informatique massive l'année dernière. Et il y en a partout, dans les hôpitaux et dans tous les pays. Et donc, j'ai trouvé cette petite image rigolote avec le soldat, en principe moderne, qui est armé jusqu'aux dents. Et puis, il dit, non, mais ça va pas, c'est là qu'il faut regarder. On voit le geek, là, qui est en train de taper sur son clavier. Donc, c'est là que ça se passe. Alors, ça existe, mais évidemment, on évite d'en parler médiatiquement parce que le secret de la défense, eh bien, c'est d'être secrète et de ne pas dévoiler ses batteries. Alors, initialement, c'était l'amiral Koldefi qui devait nous le faire, mais comme on lui a demandé un autre sujet, puis qu'il est très pris, donc on l'a sollicité sur un autre sujet, donc on va trouver un conférencier pour faire cette conférence. Alors, la presse, un autre aspect, la sociologie de la presse. À quoi ça sert? Comment ça marche? Quelle est l'attitude du public, etc. Et là, on a fait revenir M. Pascal Mauny. Pascal Mauny, on l'a bien connu, il nous a fait tout un cycle de sociologie, thématique. Et on l'a resollicité parce que là, on ne le voit plus, il n'est plus directeur de l'IUT, il est professeur, disons, parmi les autres. Hein. Et comme ça, par sondage, je lui dis, tiens, ça vous dit toujours de faire des conférences? Oh, ben, il dit, oui, pourquoi pas, moi j'aime bien. Donc on lui a proposé ce sujet-là, il dit, je prends, voilà. Pourquoi on lui demande ça? Tout simplement parce qu'il est enseignant, il enseigne la logistique. Vous allez me dire, quel rapport avec la sociologie de la presse? Ben, tout simplement parce qu'il y a une formation de sociologue. Hein? Nul n'est parfait. Voilà. Monsieur Lyonnais, donc, eh bien, est dans la poursuite de ce qu'il nous avait fait un petit peu sur l'aviation civile avant-guerre. Et là, le transport civil après 1945, ben vous le savez tous, ça a absolument explosé. Et aujourd'hui, il a quelques difficultés, hein, pour des tas de raisons, mais même les plus optimistes des prévisionnistes en 1945 n'auraient jamais osé penser que le développement civil prendrait cette ampleur. La philo. Schopenhauer, vous avouerez qu'il a vraiment une tête de philosophe. Hein. Il fallait l'inventer. Hein, voilà. Et alors, Pierre Guenancia, qui est un excellent conférencier, a dit, moi j'en ai marre de faire des monographies sur tel ou tel penseur philosophe. Moi j'aime bien faire des conférences sur des thématiques transversales. Et spontanément, il me dit, ben, je travaille depuis des années sur le mot identité. Qu'est-ce que ça veut dire que l'identité? Et tout le monde l'a en bandoulière dans son discours politique. Je suivais mon regard. Hein. Mais personne n'a la même explication de ce qu'est ce mot identité. C'est un mot valise qui est galvaudé et personne ne sait ce que ça veut dire. Donc il va tenter. Et je suis sûr que ça sera très bien, parce que pour ceux qui le connaissent, je vous invite vraiment à venir l'écouter, parce qu'il est brillantissime, il est très clair, et je pense qu'on va apprendre des choses. Voilà. Il était prof de philo à la fac, hein, il était doyen de la fac de philo à Dijon, et maintenant il est à la retraite. Un autre thème. Le hasard, une approche philosophique. Est-ce qu'on peut faire de la philo sur le hasard? Ben, la preuve, Madame Simonin va pouvoir. Donc vous viendrez écouter son exposé. Économie et droit. Le rôle des banques centrales. On n'a pas choisi ça par hasard. Donc M. Jean-Louis Donnet, c'est un prof de la fac de Besançon, hein, et qui nous a fait de très bonnes conférences. Là, et, cette année, nous a fait la compétitivité de l'industrie française. Ces banques centrales dont on parle du matin jusqu'au soir dans les gazettes et au journal, si on faisait une interrogation écrite ou orale auprès du grand public, on ne serait pas déçu des réponses qui sont données. Donc on comprend mal à quoi ça sert. Voilà. Donc c'est l'objectif de cette conférence, c'est de mieux comprendre comment ça fonctionne. En droit, Madame Tourard, qui nous fait des conférences sur le droit international, c'est moi qui lui ai demandé de faire ce thème-là. Les organisations non gouvernementales, ONG, ça, par construction, ça n'a pas de statut, puisque c'est non gouvernemental. Donc c'est un machin qui est nulle part. Et il y a toujours des problèmes d'interface avec toutes les structures juridiques, étatiques, internationales et tout et tout. Et toutes ces choses, ben, le premier cas c'est évidemment la Croix-Rouge, hein, au milieu du 19e, mais après, ben, ça c'est. Et là j'ai mis quand même Médecins sans frontières, French Doctors comme on dit en anglais, hein, donc les Médecins sans frontières, dans tous les pays du monde sauf en France, ça s'appelle French Doctor. Hein, on dit pas, c'est pas la traduction de Médecins sans frontières. Mais ces gens-là qui interviennent sur le terrain, bon, bien sûr, ils sont aidés par les organisations matériellement par les pays et les organisations internationales, mais quel est leur statut juridique vis-à-vis de ce qu'ils font? Et ça, ben, c'est la brasse coulée. Quand il y a un problème, eh bien, tous les rats fuient le bateau. Parce que c'est pas moi, c'est l'autre, etc., etc. Donc, non seulement c'est un métier qui est extrêmement difficile et qu'on doit saluer, mais c'est un métier qui est juridiquement instable. Hein, voilà. Donc elle va essayer de nous expliquer ça. Alors, la Constitution et la vie politique française. Sébastien Rago, peut-être certains d'entre vous le connaissent, Sébastien Rago, c'est le maire de Givry. Son père faisait du vin, et c'est un très bon vin, je vous le recommande. Hein. Mais il est enseignant, et surtout, il a une formation d'avocat, mais il est enseignant de droit, mais surtout, il est vice-président du Grand Chalon. Et il s'occupe de la. Il a la tutelle de l'enseignement supérieur, entre autres de l'IUT. Puis, comme ça, dans une conversation à bâton rompu avec lui, parce qu'il vient à nos conseils d'administration, il lui dit : Mais vous n'avez pas envie de faire des conférences ? Oh, ben pourquoi pas ? Alors, ben on dit : Ben banco, alors qu'est-ce que vous proposez comme sujet ? Donc, il nous a proposé celui-là. Quel est le rôle de la Constitution et comment, enfin, la Constitution, ça va être surtout la Constitution de la Ve République. Pourquoi la Ve République a eu cette Constitution telle qu'elle existe aujourd'hui? Parce que je rappelle qu'elle maintenant, elle va battre le record de durée, de longévité. On peut dire elle n'a pas bénéficié d'un enthousiasme médiatique pendant 70 ans. Hein. On lui tape dessus régulièrement à bras raccourcis. Hein. Mais elle tient le coup. La bête a du gnac. Hein. Puis je rappelle la Troisième République, on dit ça dure longtemps aussi, mais il n'y a pas de constitution au sens tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est un ensemble de textes constitutionnels, de lois constitutionnelles, mais il n'y a pas de constitution monobloc telle qu'on l'a inventée. Disons en 1958. Et donc là, j'ai pas résisté au plaisir de mettre la petite image de Michel Debré qui appose Poisson sur l'exemplaire de luxe de la Constitution de 1958. Voilà. Et ensuite, la vie politique française, ben, comment y a une interaction entre la Constitution et la structure de la vie politique française. Vous le savez tous, j'en dirai pas plus, on l'écoutera avec beaucoup d'intérêt. Alors, une deuxième de ma part. Alors, ce qui m'a poussé à proposer ce sujet-là, la ruée vers les métaux rares. Je changerai le titre vers les minerais rares, parce qu'il n'y a pas que les métaux. Hein. Et pourquoi il faut parler de ça? On a un groupe qui s'appelle Économie et Géopolitique. Et il y a une personne dans la salle, je ne sais pas s'il est là, M. Babou, il n'est pas venu, donc un de nos adhérents, qui nous a fait un exposé très ciblé sur ce thème-là, qui est excellent. Il est tellement excellent que je lui ai demandé de le refaire en conférence globale. Il est tout prêt, etc. Pourquoi j'ai remis ça? Parce que c'est l'actualité qui le commande. Avec tout ce qui se passe actuellement en Ukraine et la désagrégation de la mondialisation, ce sujet, qui était déjà latent dans l'actualité, ben, va devenir central. Et voilà, c'est comme ça. Donc, je reprendrai bien sûr des éléments de l'exposé de M. Babou. Et en complément, ben, de la même. Ah ben non, je confonds avec Babou, c'est un autre collègue qui a fait ça, c'est Jean-Pierre Durski qui avait fait cet exposé. Je mélange les deux. Voilà. Alors, Pierre Babou. Donc, qui est un adhérent, donc, nous a fait un exposé géopolitique mondiale de l'agriculture. Très intéressant, et donc il va vous le voyez ici, il va nous faire cet exposé en le complétant. Et au moment où il a fait ça, il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine et le problème, entre autres, du blé. Hein. Et donc, il va bien sûr enrichir sa conférence de l'actualité très proche, et on vous en parle dans tous les journaux télévisés, pratiquement maintenant. Hein, voilà. Donc ça, c'est absolument important. Alors, toujours pareil, on programme des thèmes qui sont vraiment des thèmes d'actualité au niveau géopolitique. Alors, Martine Thomas, elle n'est pas là. Martine Thomas, elle fait aussi partie du groupe Économie et Géopolitique. Et alors, elle n'est pas. Une chose que je n'ai pas dite pour Pierre Babou, il a quand même une expérience dans ce domaine-là. Il était ingénieur dans l'agroalimentaire, dans l'industrie sucrière. Donc, il connaît quand même un petit peu le sujet. Par contre, Martine Thomas, elle est médecin psychiatre, enfin, elle l'était. Et donc, elle m'a proposé de faire ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Vous avez entendu parler de ça dans les journaux. C'est quoi? C'est de dire, ben, la Chine fait des infrastructures qui ont vocation, terrestre ou maritime, qui ont vocation à être branchées sur l'Europe et sur l'Afrique, dans l'un sens et dans l'autre. Alors, tout le monde, en particulier les Européens, je ne parle même pas des Américains, regarde ça d'un œil dubitatif ou même hostile. Et donc, elle nous a fait un exposé avec des sources qu'elle a trouvées, bien sûr, dans la littérature et sur Internet. Et j'ai trouvé aussi que c'était excellent, donc ça méritait d'être donné en conférence plénière. Hein, voilà. Alors, Bruno Benoît. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les nouveaux, c'est une de nos vedettes et un batteur d'estrade absolument extraordinaire, ancien professeur à Sciences Po à Lyon, et j'ai des témoignages de ses anciens élèves. C'est le seul professeur dont personne ne séchait aucun de ses cours, parce qu'il était tellement brillant que... et donc, à l'UTB, ben, on ne sèche pas les cours de M. Benoît non plus. Quand il vient... On sait qu'on va se régaler. Voilà. Alors, il nous a dit, bien, qu'est-ce qu'on va dire des anciens pays de l'Est, avec l'histoire de l'effondrement du... Donc, au lieu de se concentrer sur l'Ukraine, essayer de faire un tableau global de tous ces tableaux, la chute du mur, et qu'est-ce qui s'est passé. Et les destinées de chacun des pays, vous le savez tous, de la Pologne à la Bulgarie, ou en passant par la Bulgarie, la Hongrie, voilà, ont des trajectoires différentes. Hein, voilà. Et pourquoi, hein, voilà. Et c'est tous des pays qui ont été sous le joug communiste depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, autre sujet central de l'actualité, c'est, qui est un peu tarte à la crème aussi au sens de l'inflation médiatique, c'est la soi-disant fragmentation de la société française dans tous ses aspects, idéologiques, sociologiques, niveau de vie, etc., etc. Quelle est la réalité de ce phénomène qui est finalement très complexe. Donc il va essayer d'en faire une synthèse. Il y a beaucoup de littérature qui parle sur ce sujet. Si vous voulez, comme on est beaucoup sorti des grandes segmentations idéologiques, maintenant on est plutôt dans des analyses sociologiques, les campagnes, les villes, les banlieues riches, les banlieues pauvres, etc. Il y a beaucoup de grilles de lecture, si vous voulez. Donc, il va nous proposer un exposé qui sera, je n'en doute pas, excellent. Alors, comme monsieur Koldefi, l'amiral Koldefi, a sorti son joker parce qu'il ne pouvait pas venir cette année pour parler de des cyberguerres, donc on a gardé le sujet, on va trouver un autre conférencier, mais on avait en ligne de mire la militarisation de l'espace. Et là aussi, il semblerait qu'on soit au plus proche de l'actualité, puisque tout le monde dit un peu, je rappelle quand même que la coopération avec les Russes risque d'être impacté fortement avec les événements. Et puis les Chinois ont un programme indépendant depuis le début. Et ils ne sont pas du tout ridicules, puisqu'ils ont réussi à aller sur la Lune, ils ont réussi à aller sur Mars. Donc c'est quand même des gens qui maîtrisent le sujet. Je rappelle que c'est les Américains qui n'avaient pas voulu des Chinois dans la station spatiale internationale. Donc il a dit, vous voulez pas de nous? Eh bien écoutez, on se passera de vous et on se débrouillera tout seul. Donc le résultat, il est là 25 ans après. Donc il n'est pas du tout impossible qu'il y ait des problèmes de militarisation de l'espace. C'est pas de mettre des canons dans l'espace, le problème c'est de brouiller les communications de la partie adverse. Je rappelle que dans la guerre d'Ukraine, les Russes brouillent le GPS des Ukrainiens. OK. C'est pour ça que M. Elon Musk envoie des systèmes qui permettent de contourner le problème. Géographie. M. Pierre Michaud. Alors, il nous a fait presque tous les pays du monde, puisque c'est un grand voyageur, c'est un géographe, mais en plus c'est un voyageur. Et c'était un enseignant de géographie et qui a pris des postes dans tous les pays francophones de la planète. Et dans ses pérégrinations, il a été en poste en Nouvelle-Calédonie, et maintenant il fait encore, l'année dernière, il était encore allé faire des prestations d'aide à l'éducation. C'est un gars qui a mon âge, c'est battant. Et il connaît bien la Nouvelle-Calédonie. Alors, vous savez, le problème de la Nouvelle-Calédonie, c'est loin. Il y a les Kanaks et les autres. Et c'est 50-50. finalement, ils ont voté pour le maintien dans le domaine français, mais surtout, il y a quelque chose en Nouvelle-Calédonie, le nickel. Et c'est le seul endroit où il y a des très grosses ressources de métaux rares, entre guillemets, sur dans le domaine français. Donc le nickel est l'objet de toutes les convoitises. C'est pas fini. Sciences et techniques. Je vais tenir à peu près. Alors, astronomie. Alors, nous avions notre conférencier astronome qui est venu là depuis 15 ans, mais il a émigré en Normandie. Et il a dit, je veux arrêter. Donc, il nous a trouvé un remplaçant. C'est M. Causseret, qui est un mathématicien et qui va nous faire des choses sur l'astronomie. Alors, avant tout ça, j'ai regroupé dans un bloc ce qu'on appelle la fête de la science. Je rappelle, la fête de la science, c'est une période, la première quinzaine du mois d'octobre, tous les ans. On fait des manifestations, des forums, des expositions, etc. Et les gens qui font des conférences comme nous ont une petite aide financière pour payer les conférenciers qui interviennent dans la fête de la science. Donc on a choisi ces trois conférences pour la fête de la science. Voyage dans le temps avec l'ADN fossile. Donc vous savez que maintenant, le fantasme de Jurassic Park qu'on trouvait ridicule il y a 25 ans, maintenant on dit ben, c'est peut-être pas si idiot que ça. Donc de dire en arrivant à piquer l'ADN de fossiles, à minima on peut retrouver l'histoire de l'évolution de ces fossiles, et mais surtout peut-être qu'en faisant des manipulations à la Frankenstein, là, réinventer. Alors, ça paraît possible, par exemple, pour des choses comme les aurochs ou les buffles ou les choses comme ça, anciens. Les mammouths, peut-être. Le dinosaure, on n'en est pas encore là. Voilà. Les lasers et leurs applications. Alors, les lasers, vous savez qu'il y a des lasers partout maintenant. Il y a 50 ans, on se demandait même à quoi ça pouvait servir. Donc, on va découvrir que, bien sûr, c'est une application qu'en général le grand public connaît, c'est la soudure, là, la petite photo que j'ai mise, mais il y a beaucoup d'autres choses, comme ceux qui se font opérer de la cataracte, je suis sûr qu'il y en a beaucoup dans la salle, là, eh bien, dans certains cas, on utilise des lasers pour faire l'opération. La Lune, croyance et idée fausse. Donc là, c'est une introduction en douceur dans l'astronomie, c'est-à-dire toutes les fantasmes qui ont tourné autour de la Lune, depuis que la Lune est dans le ciel, et Dieu sait si ça fait longtemps qu'on la voit. Ah, par contre, après une conférence un peu plus sérieuse, c'est-à-dire tout ce qui a été fait et qui va se faire pour aller sur la Lune. Et pourquoi donc on va sur la Lune ? Ce n'est pas simplement pour les coulisses de l'exploit, c'est parce qu'on y trouve un certain intérêt. Bon, il vous expliquera tout ça, et puis toutes les technologies qui sont déjà existantes et qui sont en cours de développement, vous le savez tous, pour passer à la phase suivante dans la décennie 2020-2030. Alors, la vigne. Il y a toujours une conférence sur la vigne à l'UTB à Chalon. Donc là, évidemment, vigne et réchauffement climatique, est-ce que la vigne va tenir le coup, en clair? Je rappelle quand même que la vigne, c'est une plante qui est faite pour les zones sèches. Mais sèche, il y a sèche et très sèche et très très sèche. Donc voilà. Donc, M. Bourque, il travaille à l'INRA, et donc à Dijon, et donc c'est un chercheur, et c'est un bon conférencier, un chercheur qui est bien au courant de toute cette problématique. Alors, on a découvert un nouveau conférencier cette saison, là, M. Guillaume Lecointre, qui est une vedette, d'après les spécialistes, de la théorie de l'évolution, le néo-darwinisme, comme on dit maintenant, et qui nous a fait une conférence très documentée il y a quelques semaines. Et donc, lui, il aime faire des conférences. Donc, je vais revenir. Non seulement je vais revenir, mais je vais vous donner le nom de mes collègues là qui vont vous faire des. En particulier celui sur l'ADN fossile, c'est bien ça. C'est lui qui nous l'indiquait. Hein. Donc, qu'est-ce que l'adaptation en biologie ? Est-ce que tout est adapté ? Quelles sont les limites de l'adaptation ? Puisque une des critiques contre du darwinisme, c'est de dire il y a des trucs dans l'évolution qui sont mal foutus. C'était le thème de sa conférence précédente. Ben, il a dit oui, il y a des choses qui sont mal foutues, mais le handicap n'est pas suffisamment fort pour que cette chose mal fichue soit éliminée. Voilà. Et il nous a dit aussi une chose que j'ai apprise, c'est que ce phénomène évolutif se passe même au niveau de la cellule, chose qui n'était pas dans les idées, ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années. Mais ça, c'est les avancées de la biologie moléculaire qui permettent de faire ces choses-là. Alors là, je ne pouvais pas éviter non plus ce sujet-là, donc je peux même passer là tout de suite. Ces fameux vaccins ARN messager dont on nous a rebattu les oreilles, qu'est-ce que c'est que cette bête à cornes, hein ? Alors, monsieur Fabrice Nayers, qui est très bon, hein, et qui est à Dijon, et va nous expliquer tout ça d'une façon claire et précise. Voilà. Thierry Malvézy va nous parler connaissance actuelle de la paléontologie humaine. Il a fait une conférence cette année sur les connaissances nouvelles, mais qui n'étaient pas ciblées spécifiquement sur l'anthropologie humaine, qui était ciblée sur la botanique, sur des petites bébêtes que personne ne connaît. Donc là, on va se concentrer sur les évolutions. Et vous savez que c'est en perpétuel mouvement, donc il faut se tenir au courant de l'actualité. Notre ami Jean-Marie Vigoureux, qui est un pédagogue hors pair de physique, il nous a proposé un sujet qui nous a laissé un peu dubitatif, les vibrations au quotidien. Il dit, ben vous allez voir que tout ce qu'on vit, tout notre environnement, ça n'est qu'une seule chose, ça n'est que des vibrations. Alors, des vibrations lumineuses, des vibrations mécaniques, des vibrations du son, etc., etc., etc. Donc il va essayer de vous faire un package très attractif. Eva Greenwald, la chimie dans notre quotidien. Je n'ai pas pu résister à mettre toutes les bouteilles de plastique, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a tous les phytosanitaires, il y a tous les produits qu'on appelle à tort chimiques, et qu'on devrait appeler des produits synthétiques, hein, la chimie de synthèse. Et donc, c'est facile de dire que tout ça, c'est mauvais, et on jette tout à la poubelle. Il y en a déjà trop dans la poubelle. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait à la place ? Et là, quand on déroule le fil de laine, ben finalement, c'est pas si facile que ça. On s'est un peu habitué à ces choses. Alors, nos deux jumelles, certains d'entre vous ont peut-être vu, Souria et Anna Essaoui, donc qui sont des jumelles, des sœurs jumelles, et qui sont les premières docteurs en génétique qui ont obtenu ce diplôme en France il y a 5 ou 6 ans. Et maintenant, elles exercent une profession de conseil en génétique. Et évidemment, comme elles travaillent, elles sont très occupées, mais elles ont dit, bon, on veut bien vous faire la conférence sur les cancers de la peau, sauf qu'il faudra la faire en visioconférence. Mais c'est doublement compliqué parce qu'elles habitent dans deux villes différentes, distantes de 200 km. Donc on fera une visioconférence, ça se fait. Hein. Le problème, ce n'est pas la technique de la visio, c'est de trouver une date pour alors jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé un consensus pour la date, mais on va y arriver. Et puis on arrive presque à la fin, donc j'ai presque tenu l'horaire. Mais évidemment, il faut parler de ce machin, ce fameux EPR2. Alors, vous savez ce qu'est l'EPR. L'EPR, c'est le réacteur nucléaire qu'on n'arrive pas à faire démarrer à Flamanville et qui coûte des sommes astronomiques pour des tas de raisons. C'est pas le sujet. Et donc, ça fait au moins 6 ou 7 ans que les gens qui s'occupent de ce type de technologie ont dit bah, si on reconduit ça à l'identique, on s'en sortira jamais. Ça coûtera toujours beaucoup trop cher, on aura toujours beaucoup de problèmes. Donc comment faire ? Ben, en travail d'ingénieur, en disant ben, on fait de l'optimisation de ce concept. Et donc tous ces travaux ont été faits et les annonces gouvernementales qui ont été faites utilisent ceci, EPR2, c'est la deuxième version de l'EPR, dite optimisée. Et donc là, ben, on aura en principe le meilleur spécialiste, puisque c'est le chef de projet de ce AEDF, de ce concept, qui nous expliquera comment tout ça s'est fait et en quoi il se différencie de l'EPR. Voilà. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, mais surtout que ce soit beaucoup plus simple et plus rapide à construire. Alors, il n'y a pas que des problèmes techniques. Mais il y a aussi des problèmes organisationnels. Je cite qu'un élément de la discussion, c'est, vous savez, qu'on a une autorité de sûreté, ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire, qui est indépendante du gouvernement et qui dit, dites-moi ce que vous voulez faire, je vous dirai si c'est acceptable ou pas vis-à-vis de la sûreté. Et traditionnellement, c'était un contrôle a posteriori. Donc, si beaucoup d'études étaient faites et que, au moment où on proposait le dossier, on disait non, c'est mal foutu et il faut que vous repreniez vos études, eh bien, tout ça s'enchaîne. Et une des raisons des glissements de coûts et de délais est liée au fait que c'était séquentiel dans la procédure. Donc, pour le PR2, M. Oblin nous dira que. Les autorités de sûreté travaillent en parallèle avec le processus d'étude et de fabrication. C'est-à-dire, ce concept, déjà, il est validé depuis 2 ans déjà, et ça n'est connu que des spécialistes comme moi, par l'autorité de sûreté. Donc, on espère, grâce à ça, que ça coûtera moins cher et ça ira plus vite. Alors, j'ai laissé vous savez qu'on essaye de faire des animations, mais ça fait 3 ans qu'on n'en a pas fait à cause du Covid, des animations avec la bibliothèque municipale de Châlons. Donc, il y en a une qu'on fera à coup sûr, c'est reparler des globes. On avait fait ça il y a 10 ans, des globes qui sont dans la salle de lecture. Et il y a un autre sujet, la presse française entre les deux guerres, parce qu'on n'avait pas pu se concerter, et donc ce ne sera sûrement pas ce thème-là. Et ce qui est le plus vraisemblable, parce que j'ai pu entre-temps voir les responsables de la bibliothèque, c'est de parler des fêtes de Louis XIV. Vous savez, quand il y avait des fêtes, il y avait ce qu'on appelait les livres de fêtes. C'est-à-dire, on faisait des opuscules avec des gravures qui disaient quel était le programme, comme l'Espace des Arts, quel était le programme des festivités, les défilés, les représentations théâtrales, etc., etc. Et là, il semblerait que la bibliothèque municipale ait une belle collection de ce qu'on appelle les livres de fêtes. Et ça, c'est méconnu. Hein. Alors, ça n'était pas diffusé comme les plaquettes de l'UTB. Hein. Mais, disons, la bonne bourgeoisie et la noblesse, évidemment, étaient alimentées par ces petites brochures qui leur permettaient d'avoir un programme des festivités, si vous voulez. Donc, en plus, comme c'est visuel, c'est intéressant de faire une animation. Parce que le problème des livres, voir un livre imprimé, même s'il a une belle reliure, c'est pas très attractif pour faire une animation. Par contre, quand vous avez des belles illustrations, bon, c'est plus sympathique. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention et j'ai pratiquement tenu l'horaire. Donc, je rappelle, donc, en principe, à la sortie, on vous donne un ou plusieurs exemplaires des plaquettes programmes de l'année qui sont imprimées maintenant. Vous en prenez un pour vous, bien sûr. Vous pouvez en prendre plus pour donner à des amis pour essayer de les faire venir à l'UTB. Hein. Et puis, cette année, parce que comme on est un peu juste au niveau des finances, on n'enverra pas les plaquettes par courrier, parce que vous savez le prix des timbres aujourd'hui. Hein. Donc, quand vous viendrez vous inscrire, on vous donnera à minima une plaquette et plusieurs si vous en voulez plus. Voilà. Je vous remercie.